savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Savoir Plus. Cette semaine, on s'intéresse à la crise du coronavirus et à son évolution dans le territoire. Mardi dernier, le groupement hospitalier de l'Artois, qui regroupe les hôpitaux de Lens, de Béthune-Beuvry, d'Hénin-Beaumont ainsi que de Labassé, organisait une conférence de presse à l'hôpital de Béthune-Beuvry. Si la situation n'est pas encore critique dans le secteur, elle n'en demeure pas moins préoccupante pour les professionnels de santé que nous avons interviewés. Bruno Donius, le directeur du GHT de l'Artois, nous résume la situation.
Assez classiquement, comme cela l'était au printemps dernier, nous avons une organisation à la fois au sein du service d'accueil des urgences avec une filière dédiée pour la prise en charge des patients suspects Covid. Et lorsque ces patients nécessitent d'être hospitalisés, selon leur état de santé et leur gravité, ils sont hospitalisés soit dans une unité d'hospitalisation conventionnelle Covid, soit dans une unité de soins plus attentifs de type réanimation ou surveillance continue. Donc aujourd'hui, dans les établissements de Lens et de Béthune, nous avons 19 patients hospitalisés pour un motif Covid, 13 à Béthune et 6 à Lens. Parmi les 13 patients qui sont hospitalisés à Béthune, 2 sont en réanimation. Et parmi les 6 patients hospitalisés à Lens, 1 est en surveillance continue. Donc une vingtaine de patients, ce qui correspond environ à un doublement du nombre de patients hospitalisés par rapport à il y a une quinzaine de jours. Et donc nous sommes attentifs à l'évolution de cette situation. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà préparé une éventuelle phase suivante d'augmentation de nos capacités d'accueil, à la fois en réanimation, en surveillance continue et en hospitalisation conventionnelle, pour que tous les patients de l'Artois qui ont besoin d'une prise en charge pour un motif Covid puissent l'être dans les deux établissements que sont Lens et Béthune.
Alors pour autant, la situation n'est pas encore critique au point de devoir déclencher le plan blanc. Alors pour bien comprendre, rappelons que le plan blanc, qui est inscrit dans la loi depuis 2004, contient des mesures d'organisation destinées à faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue d'un hôpital, ce qui était précisément le cas lors du pic de l'épidémie au mois de mars. C'est le plan qui est déclenché également lors d'accidents ou d'attentats avec un grand flux de victimes à prendre en charge et à soigner. Alors lors de la crise actuelle, il avait tout d'abord été déclenché le vendredi 6 mars dans les hôpitaux des régions les plus touchées, comme la région Grand Est. Il s'est ensuite élargi une semaine plus tard à tous les hôpitaux de France. Bruno Donius, le directeur du GHT de l'Artois.
Il n'y a pas aujourd'hui de déclenchement de plan blanc puisque le nombre de patients à accueillir dans les établissements hospitaliers est sans commune mesure avec la situation qu'on a pu connaître et la rapidité de la situation qu'on a pu connaître au printemps dernier. Évidemment, s'il y avait une augmentation très significative du nombre de patients hospitalisés, nous pourrions être amenés à déprogrammer certaines activités, notamment pour pouvoir prendre en charge ces patients dans les meilleures conditions possibles et disposer des professionnels médicaux et paramédicaux permettant cette prise en charge. Mais on en est loin aujourd'hui et nous espérons que l'ensemble des mesures de prévention auxquelles nous souscrivons, bien évidemment, permettent d'éviter cette situation de tension telle qu'on a pu la connaître au printemps dernier ou telle que la connaissent aujourd'hui certaines métropoles du sud de la France.
Là où la prudence est de mise, ce sont dans les établissements du groupement hospitalier de territoire de l'Artois hébergeant des personnes âgées, comme l'explique le directeur Bruno Donius.
Alors effectivement, en lien avec l'Agence régionale de santé et les conseils départementaux, nous avons organisé différemment depuis jeudi dernier les modalités d'accès et de visite, notamment aux personnes les plus fragiles, sachant que dans nos EHPAD et dans nos unités de soins longue durée, les visites sont aujourd'hui organisées et limitées à une personne par visite, avec une durée de visite de 30 minutes et le respect des distances et la programmation de ces visites de manière complémentaire afin de maintenir un lien social de la meilleure qualité possible. Nous développons également à nouveau les consultations à distance via les tablettes numériques qui ont été mises à disposition dans les différentes structures pour personnes âgées.
Lors de la première vague épidémique, de nombreuses opérations chirurgicales ont été repoussées, notamment par crainte des patients d'attraper le Covid-19, une situation que Bruno Donius veut à tout prix éviter.
Il faut absolument éviter les déprogrammations d'activités parce que lorsqu'on reporte une intervention chirurgicale, cela peut être délétère pour le patient. Et donc nous sommes aujourd'hui organisés pour ne pas devoir déprogrammer et nous espérons que à la fois notre organisation et les messages de prévention vont permettre d'être dans cette situation le plus longtemps possible.
Pour Bruno Donius, il faut insister sur le risque de contamination plus élevé dans la sphère privée du fait de la difficulté à adopter les gestes barrières lorsqu'on est entre amis ou lorsqu'on est en famille.
On sait aujourd'hui que la majorité des contaminations se fait dans la sphère privée, et notamment entre les jeunes générations et les personnes qui sont les plus fragiles, et donc, ainsi que les médecins le rappellent tout à fait régulièrement, nous sommes à un moment où il convient de différer au maximum les rencontres familiales qui peuvent être différées, de manière à éviter la transmission de l'épidémie à des personnes qui développeraient à ce moment-là des formes graves, ou qui parfois, dans certaines circonstances, pourraient en décédé.
De son côté, Guillaume Dervaux, le président de la commission médicale de l'établissement de Béthune, par ailleurs médecin, constate l'augmentation du nombre de cas et surveille cette évolution de très près car elle l'oblige à une réorganisation de l'accueil à l'hôpital de Béthune-Beuvry.
La situation est clairement celle d'une augmentation des flux de patients Covid, d'hospitalisation, en service de soins non critiques, pneumologie, ou dans les spécialités ou en réanimation. Et le besoin pour les soignants d'anticiper l'évolution à venir en termes d'organisation, en termes de parcours des patients, pour pouvoir gérer à la fois les patients habituels qui n'ont pas disparu contrairement au mois de mars, et les patients Covid qui se majorent. Sachant que sur Béthune, on a un capacitaire d'hôpital qui est quand même assez contraignant. On n'a pas de vase d'expansion, on n'a pas un service qu'on aurait désaffecté, qu'on pourrait rouvrir. Donc, c'est-à-dire que quand on prend de la place pour le Covid, c'est de la place qu'on prend au détriment d'autres patients. Donc tout le jeu est d'anticiper le plus en amont possible les organisations et de surveiller l'évolution des flux Covid et non Covid. Et d'associer le plus en amont possible les soignants pour qu'ils soient en connaissance des ajustements et le plus associés et enclins finalement à les mettre en œuvre dans l'intérêt de tout le monde.
Guillaume Dervaux donne ses propres conseils par rapport à cette épidémie. Lui-même n'organisera plus personnellement de réunions familiales tant que la situation n'évolue pas positivement.
De respecter les mesures barrières dans la sphère publique, bien évidemment, à savoir le port du masque, à savoir l'hygiène des mains et à savoir la distance sociale, mais aussi dans la sphère privée, de faire attention à limiter les personnes qu'on croise, on va dire, son noyau familial proche. Et à peut-être à reporter dans les mois qui viennent tout événement festif, familial, qui n'a pas de caractère d'urgence. Le faire, c'est quand même préserver les plus fragiles qui, inévitablement, sont de plus en plus exposés quand le virus progresse dans la population.
Vous êtes toujours à l'écoute de Savoir Plus, votre émission consacrée à l'actualité du département du Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'évolution de l'épidémie de coronavirus avec le groupement hospitalier de territoire de l'Artois, qui regroupe les hôpitaux de Lens, de Béthune-Beuvry, d'Hénin-Beaumont ainsi que de Labassé. Hélène Bazus est infectiologue au sein de l'hôpital de Lens. Elle nous précise les différentes données et les différents indicateurs dont elle dispose.
Effectivement, je vous expliquais que sur le plan régional, donc à l'échelle des Hauts-de-France, on observe là sur les trois dernières semaines une augmentation de tous les indicateurs. Alors à savoir qu'on a une augmentation des consultations pour des infections respiratoires aiguës qui ont multiplié selon les secteurs de consultation entre 3 fois et 5 fois entre la semaine 35 et la semaine 37. Donc on voit bien qu'il y a un élan qui n'est pas seulement dû au Covid. Ce que je vous expliquais, c'est que c'est aussi dû aux rhinopharyngites saisonnières. La rentrée pourvoyeuse aussi de ces infections-là, véhiculées par les enfants, etc. Mais qui sont extrêmement difficiles à distinguer en consultation d'un Covid de forme débutante ou mineure. Donc voilà, donc ça rend les choses difficiles en termes de diagnostic, en termes d'afflux au niveau aussi des secteurs de soins. On a une augmentation du taux de positivité des tests qui est supérieur à 5% à l'heure actuelle, avec un taux de réalisation de tests qui est très élevé dans la région. Donc on pourrait se dire c'est parce qu'on teste plus, donc on en trouve plus. Il y a une part de ça, puisqu'on trouve beaucoup d'infections chez des sujets jeunes qui ne vont pas forcément développer de formes graves, même rarement. Le problème, c'est que ces sujets jeunes sont aussi au contact de populations plus fragiles. On sait qu'en plus, la démographie de notre région fait qu'on a beaucoup de personnes qui sont à risque, avec des facteurs de risque cardiovasculaires notamment. Donc c'est l'inquiétude qu'on a, c'est que derrière ça, on ait une augmentation de ces formes graves. Et c'est ce qu'on commence à voir, puisqu'on a aussi là une augmentation sur la semaine 30. 37, des passages aux urgences pour des formes symptomatiques, des hospitalisations en réanimation et des décès.
La population la plus souvent contaminée actuellement, comme vient de l'expliquer Hélène Bazus, ce sont les jeunes adolescents et les jeunes adultes de 15 à 29 ans qui très souvent sont asymptomatiques et qui risquent fort donc de contaminer les personnes plus fragiles. Hélène Bazus.
Alors les 15-29 ans, c'est ceux effectivement chez qui actuellement on a le plus de tests positifs. Pas forcément sur des cas symptomatiques, hein, puisqu'en fait c'est beaucoup des gens qui ont été contacts dans un contexte social. Donc on revient à l'importance des mesures barrières dans la sphère privée. Des 15-29 ans, ils vont en soirée, donc voilà, il y a un contexte festif, scolaire, etc. Dans lequel ils s'exposent et beaucoup d'entre eux sont asymptomatiques. On a un peu moins de 50% des tests qui sont positifs chez des personnes asymptomatiques. Mais ces personnes asymptomatiques sont susceptibles de transmettre ce dont on n'était pas sûr. En tout cas, on avait de grosses réserves au mois de mars. Aujourd'hui, on le sait. Ils sont vecteurs. Il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui sont asymptomatiques parce qu'ils ne le sont pas encore. Ceux-là, ils sont très contagieux dans les 24 heures précédant les symptômes et on considère qu'il y a 7 jours de contagiosité. Chez les gens qui sont asymptomatiques et qui vont le rester, ben on a du mal à déterminer une date de début et une date de fin. Donc peut-être qu'au moment où on leur fait le test, ils sont plus contaminants, mais on n'en sait rien. Donc on a établi un délai de sécurité à 7 jours pour les gens qui ne développeront pas de symptômes, qui est un peu arbitraire, hein, qui était à 14, qui était ramené à 7, parce qu'on a moins de visibilité sur ces gens qui font des formes qui seront et resteront asymptomatiques.
Mais alors, n'y a-t-il pas un paradoxe à vouloir à nouveau moins tester la population, autrement dit, à prioriser les tests, alors qu'on sait qu'une grande partie de la population contaminée par le Covid-19, et notamment les 15-29 ans dont on vient de parler, ne présente aucun symptôme et risque donc de contaminer plus facilement les personnes à risque, étant persuadées de ne pas être malades? La réponse d'Hélène Bazus.
Alors, si, en même temps, il y a eu aussi, c'est comme tout, hein, quand on ouvre la porte, il y a des utilisations raisonnées, il y a des utilisations qui ne le sont pas, et on se rend compte que sur les tests qui ont été réalisés, nous, dans les semaines précédentes, quand on appelait les gens positifs sur le centre de prélèvement pour dire, vous avez fait un test, vous êtes positif, est-ce que vous avez des symptômes, essayez de faire le point sur les contacts, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui faisaient le test parce qu'ils se savaient positifs, mais ils le refaisaient pour un contrôle, ce qui n'a aucun intérêt. Parce que l'employeur avait dit il me faut un contrôle avant de reprendre. Il n'y a aucune recommandation de médecine du travail qui demande ça, hein. Faut le savoir, c'est des décisions arbitraires des employeurs, mais avec lesquelles les gens sont coincés. Donc il y avait des indications qui n'étaient pas les bonnes. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on revient sur une médicalisation de l'indication, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas assez de tests pour répondre à cette demande explosive et qu'il faut le garder pour des vraies indications de tests.
L'infectiologue Hélène Bazus qui nous donne à son tour ses propres recommandations par rapport à l'épidémie de coronavirus.
Alors, il y en a plusieurs, effectivement. La première, c'est de maintenir les mesures barrières, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de formes asymptomatiques et qu'on peut transmettre, et c'est la même chose pour la grippe, hein. La grippe, c'est pareil, les 24 heures avant l'apparition des symptômes, on est extrêmement contaminant avant d'être symptomatique. Donc, d'où l'importance de ces mesures barrières qui sont peut-être que là on aura moins de grippe parce qu'on les porte, hein, on verra. Donc le masque et le lavage des mains et puis cette distanciation, éviter effectivement les rassemblements même si c'est pas encore les recommandations nationales. C'est aussi la vaccination contre la grippe. Monsieur Donus, notre directeur, en a parlé tout à l'heure. Nous, on renforce la campagne qu'on fait tous les ans, hein, auprès du personnel soignant, parce que déjà c'est important que le personnel soignant ne soit pas vecteur. Mais il faut qu'en population générale, cette vaccination soit appliquée. Alors, on n'a pas encore de recommandations pour savoir si on va élargir les indications habituelles, hein. Mais à minima, les personnes fragiles, les professionnels de santé, ça me paraît important que les gens qui travaillent en collectivité aussi, qu'on recommande cette vaccination pour déjà réduire les infections respiratoires au sens large.
Hélène Bazus qui répondait donc à nos questions sur Radio Plus. Voilà pour ce sujet. Alors, vous le savez, de nouvelles restrictions ont été annoncées hier soir par le ministre de la Santé, hein, Olivier Véran. Voici un récapitulatif des mesures qui ont donc été annoncées. Le département du Pas-de-Calais est pour l'instant, sachez-le, placé en zone alerte. Contrairement au département du Nord, qui est, lui, en alerte renforcée. Alors concrètement, dans le Pas-de-Calais, ce sont les fêtes, les mariages, les tombolas, les événements associatifs, les anniversaires et les communions qui devront se tenir à moins de 30 personnes, tout comme les événements dans les salles de fêtes ou salles polyvalentes. Dans le département du Nord, les restrictions sont bien plus sévères, avec tout d'abord une fermeture anticipée des bars. L'horaire sera déterminé par les préfets, mais les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures, une mesure qui rentrera en vigueur lundi. Ensuite, dès ce samedi, pardon, il y aura interdiction dans le Nord de se rassembler à plus de 10 personnes dans l'espace public comme les plages et parcs. Les jauges dans les grands rassemblements passent de 5000 à 1000 personnes, sous réserve que les protocoles sanitaires y soient strictement respectés, et ce, dès ce samedi. Les fêtes locales et les fêtes étudiantes sont interdites dès samedi. Les salles de sport et de gymnase seront fermées, elles, à partir de samedi également. Et enfin, les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives seront fermées dès ce lundi. Donc tout ça, ça concerne le département du Nord. Pour autant, je vous rappelle quand même les mesures et recommandations prises par la préfecture du Pas-de-Calais depuis le 15 septembre dernier. Le préfet recommande, donc ce n'est pas une obligation, il recommande, notamment de différer les événements privés, familiaux, amicaux, puisque d'après le préfet, un nombre significatif de foyers épidémiques trouve son origine dans le cadre familial ou amical, et vous l'avez également entendu hein, dans l'analyse qui a été faite par les médecins du GHT de l'Artois. Par ailleurs, le préfet a indiqué qu'une attention particulière serait portée aux personnes à risque de forme grave, et que dans ce cadre, les communes sont invitées à mobiliser leur registre communal des personnes vulnérables. Il s'agit des personnes également handicapées ou isolées. Il s'agit en fait concrètement hein, de faire respecter le mieux possible hein, les gestes barrières à ces personnes et de limiter leurs contacts sociaux et physique, leur contact social physique, pardon. On vous rappelle, pour être tout à fait complet sur le sujet, les mesures en vigueur actuellement dans le département du Pas-de-Calais, sous réserve bien évidemment de l'évolution des conditions sanitaires, ce qui veut dire en clair qu'on pourrait tout à fait se retrouver dans la même situation que nos voisins du département du Nord. Mais pour l'instant, ce qui est obligatoire, c'est le port du masque depuis le 15 août dernier pour les personnes de plus de 11 ans dans certaines zones à forte affluence. Port du masque également obligatoire depuis le 11 septembre dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires. Depuis cette date toujours, hein, du 11 septembre dans le Pas-de-Calais, toujours les restaurants, débits de boissons et assimilés, ainsi que les commerces d'alimentation générale ont obligation de fermer de minuit 30 à 6h. Et enfin, les rassemblements de plus de 10 personnes dans le Pas-de-Calais doivent faire l'objet d'une déclaration en préfecture ou en sous-préfecture. Voilà, bien évidemment, sur l'antenne de Radio Plus, et pas seulement dans cette émission, vous le savez, eh bien on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation, notamment dans la matinale plus avec Julien et dans localement plus avec moi-même et avec les autres animateurs de la station, notamment Annie ce soir. Voilà, je vous laisse bien pour l'instant avec un peu de musique. On fait une pause avec le tout nouveau single de Mylène Farmer. Ça s'appelle L'âme dans l'eau sur Radio Plus.
J'ai l'âme dans l'eau, l'air est lourd. L'ange au ciel murmura je t'aime dans un ultime essentiel. J'ai l'âme dans l'eau.
Single de Mylène Farmer sur Radio Plus, L'âme dans l'eau, 11h passée de 22 minutes. Vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus, consacrée bien sûr à l'actualité du département du Pas-de-Calais. On s'intéresse à présent au budget citoyen du Pas-de-Calais et on découvre eh bien ce budget citoyen avec nos confrères de Banquise FM.
Pour la troisième année consécutive, le département relance le budget citoyen du Pas-de-Calais avec toujours 400 000 euros qui seront consacrés aux projets proposés. Ce sont 50 initiatives locales autour de l'économie sociale et solidaire qui ont été labellisées par le conseil départemental et ses partenaires. Maintenant, c'est aux citoyens de jouer leur rôle et de voter pour les projets qui leur tiennent à cœur. Bénédicte Messéane-Grobelny, vice-présidente du conseil départemental du Pas-de-Calais, est venue dans nos studios le jeudi 10 septembre pour nous en dire plus sur ce budget citoyen et sur l'importance qu'auront ces votes.
Alors, le budget citoyen, c'est permettre aux habitants du Pas-de-Calais qui ont une idée, un projet de création d'entreprise d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une entreprise qui crée un lien social, quelle qu'elle soit, de pouvoir les aider, en tout cas au travers des comptoirs à initiative, au travers de l'idée, passer au projet et après créer leur entreprise de l'économie sociale et solidaire.
Voilà, il y a plusieurs étapes pour avoir son projet de validé. Déjà, comment on présente un projet? Quelles sont les catégories pour qu'il soit validé?
En fait, au départ, on vient juste avec une idée, donc sans réelle catégorie, à part le lien social, l'utilité publique, si je puis dire, parce que en règle générale, le lien social devient d'une évidence d'utilité publique. Donc on s'inscrit sur la plateforme budgetcitoyen.patcalais.fr, on y dépose son idée. À partir de là, on est invité à des comptoirs à initiative qui se déroulent à peu près sur tous les territoires. Donc, on s'inscrit. On a différents thèmes qui peuvent être de la construction de son budget. Parce qu'un budget, c'est pas si simple à imaginer. Donc, avec un de nos partenaires qui est Pas-de-Calais Actif, on peut aussi aller acquérir les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, avec aussi soit nos services, la mission ESS du département, ou soit avec un autre de nos partenaires. Et à partir de là, je vous dis, ils sont invités à participer. Alors, c'est vrai que cette année, avec la Covid, on a dû un peu innover. On est parti sur la dématérialisation, mais on a réussi effectivement à tenir des comptoirs dématérialisés avec plusieurs personnes, avec moi qui leur faisais un petit coucou de temps en temps parce que l'agenda était chargé, mais au moins pouvoir les voir, parce que d'habitude je ne rentre non plus jamais dans leurs idées et je m'interdis aussi de leur insuffler quelque idée qu'elle soit, puisque c'est leur entreprise. Et Et donc, une fois cette phase terminée, où là on est passé de l'idée au projet, ils déposent leur projet sur cette fameuse plateforme. Donc de là, il y a cette phase de labellisation. Les projets sont mis entre guillemets en labellisation par rapport aux marqueurs, encore une fois avec nos partenaires et avec aussi les labellisés de l'année précédente, la mission ESS. Et parfois aussi, les universitaires, l'université d'Artois pour ne pas la citer, et l'Institut Gaudin qui nous ont aidés à créer ces marqueurs qui définissent effectivement ce choix de labellisation, parce qu'encore une fois, l'élu n'y est pas un budget citoyen, c'est un vrai budget citoyen.
Et une fois que ces projets sont labellisés, c'est aux citoyens de jouer leur rôle et de voter. Donc, alors, à quoi servent ces votes et comment vote-t-on?
Alors déjà, il y a une toute petite phase que je voulais vraiment rajouter, si vous me le permettez. Avant ça, on leur donne un kit de communication avec une formation aussi, pour qu'ils puissent communiquer sur leur projet. Parce qu'encore une fois, nous, on est là en appui, mais c'est vraiment de leur initiative. Donc, on leur donne un kit de communication. On les aide même à être... comment le plus bref possible, chose que j'ai énormément de mal à faire. Donc là encore avec une de nos partenaires. Et à partir de là, les votes sont mis du 1er au 30, enfin les projets sont mis du 1er au 30 septembre, toujours sur cette plateforme budget citoyen, pas-de-calais.fr. Donc on a le droit à 3 choix. Il faut bien sûr habiter le Pas-de-Calais, avoir 11 ans minimum. On voit les projets qui défilent sous les yeux. Alors tous ces projets sont le fil rouge de tous nos politiques, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien sur la culture, sur le handicap et bien d'autres, bien sûr. Et après, ce vote en fait sert en tout cas à déterminer qui aura la subvention, puisqu'on se base sur le nombre de votes. Alors c'est vrai que jusqu'alors on a des projets qui parfois entrent dans notre enveloppe de 400 000 euros. Puisque c'est le budget qui a été voté en mois de décembre, sachant que s'il reste un peu d'argent, on le répartit pour ceux qui ont eu le plus de voix. Autrement, si les projets vont au-delà de l'enveloppe, c'est vraiment le vote des habitants qui va déterminer la subvention qui sera allouée, parce que c'est un vrai budget citoyen.
Donc l'année dernière, par exemple, combien de projets ont été subventionnés?
Donc on a eu une cinquantaine de projets, donc l'enveloppe était suffisante. Mais la surprise, c'est qu'on a réparti en fait le reste de l'enveloppe sur les projets qui avaient eu le plus de votes d'habitants.
Les projets labellisés sont toujours différents chaque année, avec à chaque fois beaucoup de créativité. Bénédicte Messéane-Grobelny, vice-présidente du conseil départemental du Pas-de-Calais, nous cite quelques exemples de ce qui a été proposé cette année.
Alors, on a des projets qui ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a des structures de l'ESS qui se sont installées et qui ont, en fait, en fonction du public qu'ils recevaient, ont eu envie d'aller au-delà, encore une fois. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, le mot à la mode, c'est inclusion. Et moi, je dis que parfois, je préférais qu'on parle plutôt de bien vivre ensemble. Pourquoi nous ne pas faire l'effort de vivre au mieux avec les personnes en situation de handicap? Et on a une structure qui a voulu aller plus loin. Et qui, va faire concertation, en tout cas avec les personnes en situation de handicap, pour savoir ce qu'elles ont besoin dans la structure où elles sont. Donc on a ça, on a beaucoup de jardins partagés avec parfois... au-delà, enfin on va toujours au-delà, on offre un bout de terrain, mais on offre aussi une expérience, un contact, un échange de graines, enfin. Et donc ce que je trouve assez extraordinaire aussi, cette année ce qu'on a eu aussi, c'est en fait une commune qui va créer en participatif une épicerie solidaire. C'est aussi assez extraordinaire parce que c'est porté par une commune, une collectivité, mais en même temps en y associant tous les habitants pour que cette épicerie solidaire puisse fonctionner avant même que les gens viennent y acheter, quoi.
Et vous pensez d'ailleurs que le confinement a changé quelque chose dans les habitudes des citoyens, le fait d'être peut-être plus solidaire, se diriger vers des choses à proximité de chez nous? Est-ce que quelque chose a changé dans le lien social, par exemple?
Je pense qu'effectivement, je dois saluer une structure, en tout cas que je connais, qui a énormément travaillé pendant le Covid, parce que c'est vrai que la base, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai plus de souvenirs précis de cette création, mais en tout cas, c'était vraiment le but, c'était pouvoir offrir aux personnes âgées ou en situation de handicap des paniers repas avec des produits locaux. Et c'est vrai qu'autant vous dire que pendant la Covid, il a été plus que présent et même ouvert son activité à beaucoup plus de sites qu'il avait jusqu'alors, c'est-à-dire une belle répartition sur les territoires. Et il faut savoir que beaucoup de bénévoles sont venus l'aider, et je parle bien de bénévolat. Donc oui, la Covid a créé en fait une envie de proximité. Alors après, charge à nous aussi de travailler et d'apporter, de les aider en tout cas à pouvoir continuer, parce que vous savez comme moi que chaque chose a un coût et que les habitants y ont trouvé un certain intérêt, mais il faut que ça puisse continuer. Donc il y a un travail, on va dire, en amont sur des politiques pour aider ces circuits courts en tout cas, et ce mieux consommer et cette envie de rencontre. Et je pense que le budget citoyen permet en tout cas, encore une fois, en étant participatif et en étant honnête avec tout le monde, enfin, moi c'est mon impression, et je pense que c'est ce qu'on me dit, c'est le ressenti sur le terrain, que effectivement s'il y a une politique qui accompagne, ça permet soit l'émergence ou soit le fait que les gens adhèrent à ces projets, quoi.
Et cette année, est-ce que vous observez un intérêt plus important des habitants pour ce budget citoyen? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de votes? Je vous rappelle, on a jusqu'au 30 septembre pour voter.
Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres. Souvent, c'est assez parlant. Hein. La première année, le budget citoyen, qui avait quand même été express parce qu'on démarrait, et on a démarré encore une fois avec les habitants du Pas-de-Calais. Hein. Donc, on a eu 4000 votants en 2018. En 2019, 7000 votants, ce qui était déjà aussi pour moi important. Et là, à aujourd'hui, à ce matin, les chiffres étaient de 4750 votants. Donc on voit aussi que les labellisés, nos entreprises de l'ESS labellisées, en tout cas ont bien fait leur com, puisque ça fonctionne bien. Il est important malgré ça de continuer à aller voter, parce que vous, au travers de ces votes, les habitants du Pas-de-Calais peuvent s'exprimer sur un besoin sur leur territoire. Parce que c'est vrai que le budget citoyen, la première question qu'on avait posée, c'est oui, mais ça sera surtout pour les villes. Ce sera des projets qui émergeront en ville, alors qu'on s'est rendu compte que le budget citoyen aidait surtout les projets à émerger dans nos campagnes, dans la ruralité.
Vous avez donc jusqu'au 30 septembre pour voter afin de déterminer les lauréats de cette édition 2020 du budget citoyen sur budgetcitoyen.pas-de-calais.fr. Ce reportage a été réalisé par Louise Petit pour Banquise FM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et tout de suite, les Turtles avec Happy Together avant de retrouver un dernier reportage.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
Happy Together, les Turtles sur Radio Plus. Tout de suite, on s'intéresse eh bien, à l'histoire d'une jeune Sénégalaise qui, en août dernier, était en stage dans une ferme du Pas-de-Calais à Pelves, près d'Arras. L'occasion de se rendre sur place afin de rencontrer Hervé Bertrand, producteur de lait Isora, donc salarié en production laitière. Michael Stienne, membre de Pelves Fatigue pour la Solidarité. Et de Awa, donc stagiaire sénégalaise. Reportage signé Radio Scarp Sensé.
L'été dernier, une jeune Sénégalaise était en stage dans une ferme du Pas-de-Calais à Pelves, près d'Arras. L'occasion de se rendre sur place afin de rencontrer Hervé Bertrand, producteur de lait, Isora salarié, Michael Stienne, membre de Pelves Fatigue pour la Solidarité, et bien sûr de Awa qui se présente elle-même.
Bon, je m'appelle Awa Bey, j'ai 19 ans, d'origine sénégalaise. Je suis venue cette année en France pour mes études en BTS et je suis au lycée agricole de Tiloua-les-Moufflens en première année de BTS AXE, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole.
Alors Awa, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est fait le fait de venir déjà en France pour les études à Tiloua-les-Moufflens, là à côté d'Arras, comment ça s'est fait le choix de choisir ça aussi, le secteur agricole?
L'année dernière, j'ai eu mon bac en sciences économiques et de gestion. J'avais prévu de poursuivre mes études en France. Je me suis inscrite sur le site du Parcoursup. Après, j'ai choisi une formation avec de la gestion, de la compta, tout ça. Mais je n'avais pas prévu que ce serait dans le secteur agricole. Mais bon, j'ai fait plusieurs demandes, mais j'ai été acceptée à Tiloua.
Et donc là, nous sommes à la ferme à Pelves. En quoi consiste le travail alors?
Le matin à 8h, on fait les logettes, genre l'emplacement des vaches. On repaille, on fait les couloirs. Après, on repousse le maïs. On donne à manger aux veaux. On repaille aussi les niches et on donne de l'eau aussi parce qu'il fait très chaud ces temps-ci. Avec la salariée, on trouve des vaches en retard. On refait les logettes et voilà.
Il y a pas mal de travail alors. Et ça dure combien de temps, le stage?
C'est pour 2 semaines. Et je commence le matin de 8 à 1000 ou 13 heures des fois.
Et ça fait combien de temps que tu es déjà ici en France? C'est la première année de BTS, c'est ça, là? Comment ça se passe, les études?
Oui, je suis là depuis la rentrée de septembre. Ouais. Et j'avais commencé 2 semaines de stage en novembre. Avec le Covid, on avait annulé tous les stages. Après, on a repris 2 semaines dans ce mois-ci.
Il y a la seconde année qui a commencé alors pour toi de BTS, là, en septembre aussi, c'est ça?
Oui, je continue l'année prochaine en deuxième année, en AXE.
Oh,
Rencontre aussi avec Hervé Bertrand, agriculteur, producteur de lait et propriétaire de cette ferme à Pelves.
Oui, ben bonjour, hein, moi c'est Hervé Bertrand, je suis agriculteur, j'ai 45 ans, donc à Pelves, tout près de Arras. Je suis sur une exploitation de 110 vaches laitières et 125 hectares. La culture principale, c'est destinée à l'alimentation des vaches. Donc c'est le maïs en silage, la luzerne, la betterave fourragère et les prairies. Et à côté de ça, il y a des cultures de vente, il y a du blé, des betteraves sucrières et des pois de conserverie.
Et ça fait longtemps que vous êtes agriculteur ?
Moi, ça fait 20 ans. Donc je me suis d'abord associé avec mon père pendant 10 ans. Et là, il y a une dizaine d'années, j'ai repris la ferme tout seul, en individuel, avec deux salariés.
Et comment ça s'est fait d'avoir une stagiaire la sénégalaise à la ferme à Pelves ?
C'est-à-dire, moi, j'ai un lien avec Tilloy, puisque j'ai d'abord fait mes études à Tilloy. J'ai fait mon BTA et mon BTS AXE, tout comme AWA, mais il y a plus de 20 ans. Et donc, j'ai encore un contact avec encore quelques professeurs qui sont encore en activité. Et AWA, elle avait des difficultés à trouver un maître de stage. Donc, il y a une professeure qui m'avait téléphoné pour savoir si je voulais prendre AWA. Et j'ai accepté fort volontiers.
Et donc, pour vous, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une stagiaire en plus ici à la ferme ?
Ça soulage un peu, ça donne un peu un coup de main. C'est valorisant de faire apprendre aux jeunes notre profession, même si AWA, de ce que j'avais pu comprendre, c'était pas forcément sa destinée dans le milieu agricole. Mais elle voit un autre secteur. Bon, elle a de la parenté au Sénégal qui sont agriculteurs. Donc, elle s'approfondit là-dedans.
Et ça demande une rigueur, en tout cas c'est très régulier, c'est ça, s'occuper des vaches par exemple.
Oui, tout travail aujourd'hui, on doit le faire sérieusement et rigoureusement. Les aléas de la vie économique fait que on doit être performant. C'est pour ça que tout jeune ou tout salarié, ils doivent bien s'imprégner de l'exploitation. En clair, il faut bien travailler.
Visite de la ferme d'Hervé Bertrand en compagnie d'Isora, salariée en production laitière. Elle nous fait découvrir son travail, notamment le DAL, distributeur automatique de lait pour les veaux.
Là, comme là, il y a en panne. Il y a la poudre qui est là, la poudre des veaux, comme la poudre de bébé. Un exemple, le boîtier là, on va avoir tous les dans des veaux. Le lait arrive là, dans le tuyau là, et le veau il vient boire là, à la tétine là. Ça, ça s'appelle la dalle à poudre. À l'exemple, paf, voilà, il boit. Voilà. Un gros méga biberon. Voilà. Alors, on en a mangé de la luzerne, c'est dans le Big Bang Lobo, je pense. Ça, c'est la luzerne qu'on met au veau. C'est un mélange de foie, de foin.
Ils pas le même que les...
Mais en fait, là, non, comme, en fait, comme ils boivent encore du lait, il faut des vitamines, vitamine E, en fait. Et là, en fait, c'est de la luzerne, c'est du tout... Marche à toi.
Ils ont mangé le micro.
Alors, ça, puis ça, c'est les... On va dire, c'est les bébés au-dessus de 15 jours. Et après, dans les niches avant où on s'est vu tout à l'heure, c'est les moins de 15 jours. Donc là, on a eu un veau, c'est le robot qui fait. D'un jour, on voit dans une chameau. On s'est croisé tout à l'heure. Voilà.
Nous retrouvons AWA, jeune sénégalaise qui était en stage à la ferme d'Hervé Bertrand en production laitière. Et nous entendrons aussi Michael Estienne, membre de Pelves Fatigue pour la solidarité.
Si je trouve du travail ici en France, je préfère rester ici.
Et donc la gestion agricole, qu'est-ce que c'est ? Enfin, il faut faire quoi aussi concrètement quand on fait ce métier-là ?
Il faut travailler dans des centres de gestion, donner des conseils aux agriculteurs, gérer leur comptabilité, quoi.
Vous avez besoin aussi de main-d'œuvre, cours à des saisonniers, vous, par exemple ?
Non, moi c'est à longueur d'année, donc c'est tant pour eux les cultures tout seul ou avec l'aide des entreprises agricoles, j'y arrive, mais c'est au niveau de la production laitière, j'ai deux salariés, l'un en permanent et l'autre en apprentissage, en contrat d'apprentissage. Et j'ai pas besoin de saisonnier, puisque j'ai pas de culture saisonnière qui nécessite de la main-d'œuvre occasionnellement.
Alors, Awa, pour faire ce stage ici à la ferme à Pelves, comment ça se passe aussi pour l'hébergement ici dans la région, dans le coin ?
Bah, en temps normal, je logeais au lycée, mais avec le virus, il est fermé. Donc, j'ai eu de l'aide de la part de Michael qui m'a trouvé un logement ici près de la ferme.
Oui, Michael Stienne, justement, qui est avec nous. Comment ça s'est passé alors avec Awa ? Tu peux nous expliquer comment ça s'est fait ce logement ?
Awa, quand j'ai su qu'elle venait en stage par le biais d'Hervé Bertrand, j'ai tout de suite, on va dire, sauté sur l'occasion parce que le Sénégal, je connais le pays depuis plus de 20 ans, parce que j'étais étudiant également au lycée agro-environnemental de Tilloy-le-Moufflène à près d'Arras. J'ai commencé la coopération internationale avec le lycée de Tilloy. Pendant plusieurs années, on a mis en place une coopération internationale, un échange entre les Sénégalais et les Français qui allaient au Sénégal et les Sénégalais qui venaient ici à Tilloy. Après ça, j'ai poursuivi la coopération, l'échange avec le Sénégal parce que ici, à Pelves, où je réside également, j'ai appris que suite à la Première Guerre mondiale, Pelves a été aidé pour la reconstruction par la commune sénégalaise de l'ancienne colonie française. C'est Fatick, la commune, qui a donné de l'argent à l'époque, 8000 francs. Ça a bien aidé la commune de Pelves. L'échange se poursuit entre Pelves et Fatick. On a eu un échange fructueux puisque nous sommes allés à Fatick et des autres amis pelvoises sont allés avec moi au Sénégal et c'est grâce à des amis de Pelves qu'ils peuvent héberger Awa dans le cadre de son stage. Donc c'est comme cela qu'Awa a pu poursuivre son stage ici à Pelves. Sinon, effectivement, le lycée de Tilloy-le-Moufflène était fermé avec le Covid.
Donc est-ce que c'est monté en association et quels sont les projets entre Pelves et Fatick ?
Entre Pelves et Fatick, effectivement, il y a une association qui va être montée. Ça va être Pelves-Fatick pour la solidarité. Et il y a un échange scolaire qui a démarré avec l'école Payen-Baquet de Pelves et l'école Salif-Ba de Fatick. Et il y a déjà eu des échanges et cela devrait se poursuivre. Mais aussi, on va créer des échanges dans le cadre de plantations, le bois d'école, de plantations de mangroves, de palétuviers, parce qu'il y a le Sine, le fleuve de la mer qui vient jusqu'à Fatick, et là il y a des projets de plantation également. Donc projet d'échange, échange culturel et aussi environnemental. Et peut-être qu'avec Awa, elle va pouvoir nous aider pour monter des projets sur place à Fatick, au Sénégal.
C'était un reportage sur une stagiaire sénégalaise, Awa, du côté de la ferme d'Hervé Bertrand, producteur de lait à Pelves, près d'Arras. Vous avez entendu aussi Isora, salariée en production laitière, et Michael Stienne, membre de Pelves Fatick pour la solidarité. Prise de son et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarp Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et on termine cette émission Savoir Plus avec l'actualité du département. Et on va essentiellement parler de travaux sur les routes du département. On va commencer par des travaux qui vont se dérouler près de Saint-Omer, entre Affringues et Niel-les-Bléquins, sur la route départementale 202. Des travaux qui auront lieu du 28 septembre au 16 octobre pour l'abattage de Pâle-Planche. Celle-ci sera réalisée sous interruption de circulation et un itinéraire de déviation sera mis en place. La seconde phase de ces travaux aura lieu du 16 au 20 novembre prochain pour le couronnement et le coulage de béton, avec la mise en place d'une circulation alternée par le biais de feux tricolores. Le coût de l'opération s'élève à 65 000 euros, entièrement à la charge du département. Et puis d'autres travaux vont arriver. Ils concernent la route départementale 939 et la route départementale 60 qui traversent Tilloy-les-Mauflaines et qui supporte au quotidien un trafic routier élevé comportant de nombreux poids lourds. Le conseil départemental du Pas-de-Calais souhaite trouver des solutions qui permettront de fluidifier la circulation routière et d'améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants en prenant en compte les enjeux d'environnement, de respect du paysage et le développement des activités agricoles et économiques. Et dans ce cadre, le conseil départemental souhaite recueillir les avis des habitants et des usagers de ces routes sur 4 scénarios différents d'aménagement. La concertation publique volontaire est accessible en ligne du 5 octobre au 6 novembre prochain sur le site internet du conseil départemental du Pas-de-Calais, avec des vidéos présentant justement les 4 scénarios envisagés. Voilà, c'est la fin de votre magazine Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Flash Info à partir de midi, et ensuite avec Cinérama, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma. Très bonne fin de matinée et bon appétit à toutes et à tous à l'écoute de Radio Plus.
Radio Plus, la radio de toutes les générations. Radio Plus, la radio pas comme les autres. Radio Plus, ce n'est pas que de la musique, c'est de la radio.
Toi aussi, tu détestes la vie.